Je vous rappelle quel est le sujet dont nous étudions ce soir dans la pensée de l'Église et des Églises. Il s'agit de l'autorité en matière de foi et de mœurs, l'autorité qui doit régir les chrétiens. Nous avons vu que l'Antiquité chrétienne et le Moyen Âge, jusqu'au XIIIe siècle, nous nous sommes arrêtés là, ont confessé l'autorité souveraine de l'Écriture sainte, considérée comme la parole de Dieu, infaillible. Il n'y a pratiquement eu, à cet égard, aucun dissentiment parmi les chrétiens se disant ou se voulant orthodoxes. Et nous avons vu aussi que pendant toute cette longue période, pendant au moins une douzaine de siècles, la plupart des chrétiens entrant dans la catégorie que je viens d'évoquer ont confessé cette autorité de l'Écriture sans s'imaginer qu'elle puisse jamais conduire à une critique de l'Église, des décisions prises au moins par les autorités supérieures des Églises. Après cette question, face à certaines difficultés, il leur est arrivé de dire que seule l'autorité de l'Écriture était infaillible, et non pas même celle des conciles, non pas même celle des docteurs les plus vénérés. Saint Augustin, par exemple, l'a dit très nettement, et nous l'avons vu encore sous la plume de saint Thomas d'Aquin, citant d'ailleurs saint Augustin, au XIIIe siècle. Mais en fait, les hommes qui ont parlé au nom du sentiment chrétien de tous ces siècles ont considéré que l'enseignement de l'Église établie, de l'Église officielle, et l'enseignement de l'Écriture, c'était tout un à l'évidence. Et que les hérétiques, comme ils les appelaient, qui s'opposaient à l'interprétation que l'Église donnait des textes bibliques, étaient forcément dans l'erreur. Alors nous en sommes arrivés à ce point de notre survol historique. Aujourd'hui, je voudrais que nous considérions ce qui s'est passé à la fin du Moyen-Âge, d'une part, et au XVIe siècle. Vous savez que le XVIe siècle est le siècle de la réforme, la réformation. Saint Thomas d'Aquin est un homme d'église en même temps qu'il s'efforce, avec peut-être une rigueur supérieure à celle de la plupart de ses contemporains, d'utiliser l'écriture pour édifier sa théologie. C'est après lui qu'on voit germer l'idée d'une critique possible sur la base de l'écriture des opinions et des pratiques de l'Église. Jusqu'alors, tout avait été pratiquement confondu. Certains hommes, dans la dernière partie du Moyen-Âge, commencent à se dire « Mais si jamais l'Église avait dévié, si jamais l'Église s'était trompée sur tel ou tel point. » Certains hommes commencent à se dire, alors à ce moment-là, c'est l'écriture qui devrait primer. L'idée d'une critique fait son apparition. J'ai ici, dans le livre du jésuite Tavard, des citations d'un homme qui n'est pas très célèbre, mais quand même, je pense que c'est un témoin significatif, Henri de Gand. Henri de Gand, en Belgique, rappelle bien sûr le principe classique qu'il n'y a pas en définitive d'opposition entre l'Église et l'Écriture. C'est ce qu'il continue d'admettre. Mais il pose quand même la question, faut-il croire l'autorité de la doctrine de l'Écriture plutôt que celle de l'Église ou inversement? Et ayant posé cette question, il ajoute, bien que toutes deux, l'Église et l'Écriture, soient parfaitement d'accord, il nous faut cependant voir laquelle des deux nous devrions croire de préférence en matière de foi, à supposer que la communauté que l'on tient pour être l'Église soit en désaccord sur un point avec l'Écriture. Nous pourrons savoir à laquelle des deux il est plus sûr de donner notre adhésion. Et face à une telle hypothèse, il dit apprendre les choses en elles-mêmes et dans l'absolu, il faut croire l'Écriture sainte plutôt que l'Église, au sens imparfait de ce terme. Car la vérité comme telle est conservée dans l'Écriture de manière immuable et sans changement, et nul n'a le droit d'y ajouter, d'en retrancher ou d'y changer quoi que ce soit. Mais chez les personnes qui constituent l'Église, la vérité est sujette à changement et à variation. Un grand nombre d'entre elles peuvent se trouver en désaccord avec la foi et s'en écarter par erreur ou par malice, encore que l'Église demeurera vivante en un petit nombre de justes. Ce qui vous montre quand même qu'il a, sur ce point, bien discerné la possibilité d'un problème et la bonne solution à y donner. Sa position n'est quand même pas révolutionnaire, car il peut ajouter encore, pour ce qui est de naître à la foi et de la recevoir, l'autorité de l'Église l'emporte sur celle de l'Écriture, pour les personnes qui sont encore mal affermies. Aussi est-il raisonnable pour celui qui accède nouvellement à la foi de croire d'abord et davantage l'Église plutôt que l'Écriture, et de croire au Christ et à son Écriture à cause de l'Église. Ce qui montre qu'il n'a pas rompu toutes les amarres, mais il est intéressant que cet homme, Henri de Gand, ait su poser les problèmes avec lucidité. Wycliffe, qui était un théologien anglais, professeur à Oxford, il a été destitué de sa chaire, mais il n'a quand même pas été excommunié, il a continué à avoir une paroisse. Wycliffe, qui a aussi beaucoup travaillé à la traduction de la Bible en anglais, et c'est à cause de cette œuvre de traduction qu'on a repris son nom pour l'association, la mission Wycliffe, les traducteurs de la Bible. Wycliffe, lui, au XIVe siècle, a été un peu plus loin qu'Henri de Gand. Il avait discerné de nombreux abus dans les pratiques de l'Église, il n'était pas le seul, et il est arrivé à la conviction que c'est l'Écriture qui doit juger, qu'elle est supérieure à l'Église. Wycliffe, dit Tavard, applique ainsi au domaine de l'histoire, au domaine des faits de l'Église, ce qui n'était pour Henri de Gand qu'une pure spéculation intellectuelle. Henri de Gand avait posé la question à titre d'hypothèse, si jamais l'Église errait, pour Wycliffe, elle erre effectivement dans bien des choses qu'elle énonce, et à ce moment-là, alors, il faut choisir l'Écriture plutôt que l'Église. Il peut s'écrier, par exemple, « Avec quelle négligence n'a-t-on pas rejeté les règles pourtant si bienfaisantes de l'Église ?» Que l'Écriture avait donné à l'Église. Les règles fixées par le Christ et par l'Église primitive étaient certes bien meilleures que celles de l'Église d'aujourd'hui. Voilà ce que Wycliffe peut dire. Il rejette la conception de certains défenseurs de l'autorité de l'Église à son époque. Ils disent que leurs lettres pastorales et les traditions papales de toutes sortes ont la même autorité que l'Évangile, et une autorité plus grande que celle des écrits de l'apôtre, puisque le pape accorde des dispenses à l'encontre des prescriptions de l'apôtre et corrige l'Évangile. Ils tiennent pour hérétique d'affirmer que le pape ne peut donner de pouvoir à personne si Dieu n'a d'abord donné lui-même ce pouvoir. Car, à ce qu'ils imaginent, c'est uniquement par ses bulles approuvées par lui-même et ses cardinaux que le pape donne ou retire un tel pouvoir. Et cette position est tout à fait exclue pour Wycliffe, et il affirme au contraire, pour demeurer chrétien, il faut s'en tenir à la Sainte Écriture, car elle est la foi catholique, l'Église universelle, l'Écriture. Il a dit toutes les traditions humaines ou les actes arbitraires qui ont gêné ou empêché dans l'Église l'application de la loi évangélique ont été par la même cause que notre mère, la Sainte Église, n'a porté que peu ou pas de fruits. Nous avons donc des positions qui, avec Wycliffe, deviennent nettes en critique de la conduite et même de certaines opinions de l'Église, de certaines de ses traditions. Alors, en même temps qu'il y avait cette tendance, donc, que nous appellerions évangélique, commencer à s'esquisser pendant la dernière partie du Moyen-Âge, la tendance opposée s'affirmait aussi la tendance à donner à l'Église une sorte de priorité pratique, mais de manière consciente cette fois, pas simplement dans l'élan d'une confiance indistincte, mais de manière délibérée, de donner en pratique une autorité supérieure à l'Église. Un très grand théologien du XIVe siècle, peut-être le plus grand de ce siècle, Guillaume d'Ockham, qui enseignait aussi à Oxford, Guillaume d'Ockham va assez loin dans ce sens-là. C'était un esprit subtil, qui maniait avec aisance l'abstraction. Et l'une de ses idées est résumée de la manière suivante par toujours ce même auteur que j'utilise. Outre les vérités révélées aux apôtres, il y a des vérités que Dieu a révélées ou inspirées à d'autres, et qu'il révélerait ou inspirerait encore s'il en était besoin, et que cette révélation ou inspiration était parvenue avec certitude à l'Église universelle. Ockham, dans son dialogue, mentionne parmi les vérités catholiques les vérités qui, des apôtres, sont venues jusqu'à nous par la tradition orale ou par les écrits des fidèles, bien qu'elles ne se trouvent pas dans les saintes écritures ni ne puissent être déduites avec certitude des seules écritures. Il affirme donc une deuxième source par la tradition orale dont l'écriture est la garante en quelque sorte, l'Église est la garante avec ses autorités. Ockham affirme surtout cette idée d'une deuxième source, d'autres vont encore plus loin dans le sens d'une autorité propre de l'Église. Voici ce que j'ai relevé spécialement frappant dans ce livre consacré essentiellement au sujet. Dans un poème dédié au pape Innocent III, un auteur du début du XIIIe siècle écrivait à ce pape, donc, « Vous n'êtes ni Dieu ni homme, vous qui êtes placé entre Dieu et l'homme. » Voilà ce qui était dit au pape. Il est probable que de telles exagérations poétiques ne déplaisaient pas au pape. Il dit, lorsque le pape dissout un mariage, par exemple, il n'agit pas en tant qu'homme. Page 170 et suivante, il s'agit cette fois du maître du sacré palais, non plus du début du XIIIe siècle, on a fait du chemin, mais au début du XVIe, siècle donc de la Réforme, le maître du sacré palais, qui était un dominicain, Silvestre Prierias, je crois que c'est la forme latinisée de son nom, latinisée ou presque quasiment grécisée, alors que je crois qu'il s'appelait Prierio en fait, Silvestre Prierias, qui allait jusqu'aux affirmations les plus hardies. Il pouvait dire, dans son jugement irrécusable et divin, l'autorité de l'Église est plus grande que celle de l'Écriture. Encore de lui, l'autorité du pontife romain, quand il prononce un jugement selon son droit et sa fonction, est plus grande que celle de l'Évangile, puisque c'est à cause d'elle que nous croyons à l'Évangile. Nous croyons inébranlablement à l'Évangile et aux autres livres canoniques sur l'autorité de l'Église et à cause de sa décision que nous connaissons par le pontife. Il écrit encore, quiconque ne s'appuie pas sur la doctrine de l'Église romaine et du pontife romain comme sur la règle de foi infaillible de laquelle l'Écriture sainte elle-même tire sa force et son autorité est hérétique. Alors il n'était pas suivi par tous, hein. Et la très grande figure du cardinal Cajetan à la même époque correspond à une position tout à fait différente. Cajetan n'allait pas jusqu'à ces extrêmes de papisterie. Mais vous voyez comment certains hommes pouvaient s'affirmer à ce moment-là. Je vais encore noter une page de laquelle je peux citer. Un théologien qui s'appelait Christophe Marcel, lui en fait c'était un Italien, Cristoforo Marcello, chanoine de Padoue et pronotaire apostolique sous Jules II, disait en tant que notaire apostolique au cours de la cinquième session du Concile du Latran en 1513 que le pape est un autre Dieu sur terre. Textuellement, ce qu'il dit du pape. Un autre Dieu sur terre. Ce n'est même plus comme dans le poème « Entre Dieu et l'homme », cette fois c'est un autre Dieu sur terre. Les conflits de tendance de la dernière période du Moyen-Âge, je pense qu'on peut en particulier les expliquer par les grands remous de l'histoire religieuse, de l'histoire ecclésiastique, des derniers siècles de ce que nous appelons donc le Moyen-Âge. Au XIe, XIIe, XIIIe siècle encore, on peut dire que la papauté, grâce à l'action de papes habiles et intelligents, a réussi à asseoir toujours davantage sa puissance. Les papes ont réussi, sans aucun doute, à accroître leur influence, à se faire accorder des privilèges, etc., de manière assez continue. Mais au XIVe siècle, la papauté a subi des revers très considérables, en particulier à cause de la fermeté de la politique des rois français. Le conflit avec Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, s'est soldé quand même par un recul de la puissance du pape, et tout spécialement quand Philippe le Bel a réussi à contraindre les papes à venir s'établir à Avignon au lieu d'être à Rome, comme vraiment on peut dire que toute la logique de la théologie de la papauté y oblige. C'est quand même assez incroyable qu'un roi de France ait réussi à obtenir cela. Pourquoi Avignon? Pourquoi les papes, qui se prétendent successeurs de Pierre parce qu'ils sont évêques de Rome, ont aidé à s'établir à Avignon, mais voilà, pendant 70 ans environ, 1309 à 1360, 17, 18 ou 19, les papes ont eu leur palais, leur curie, c'est-à-dire leur cour, hein, c'est ce que veut dire le mot curie, à Avignon. Et puis, dans la période qui a suivi, forcément, à Avignon, sous l'autorité politique du roi de France, il avait des moyens d'action assez limités. Et dans les autres pays, on n'était pas prêt à obéir à leurs décrets comme s'ils avaient été indépendants. Vous voyez bien qu'ils étaient les instruments, pour une part au moins, de la politique des rois de France. Et puis, dans les années qui ont suivi, pendant 30 ans, ça a été encore pire. Parce qu'il y a eu deux papes qui se sont disputés, le pape d'Avignon et puis un autre pape. Lequel était le bon ? Un concile a été réuni, un concile général, un concile œcuménique, en 1409, donc après 30 ans de système de rivalité entre deux papes. Un concile a été réuni à Pise pour réussir à résoudre cette question qui ruinait l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. Ce concile a déposé les deux papes, le vrai et le faux, lequel était le vrai, lequel était le faux, il a pensé qu'il fallait déposer les deux, et on a nommé un troisième, et pendant un temps, il y a eu les trois, car les deux premiers n'ont pas accepté de se laisser déboulonner, pour employer un mot à la mode, de se laisser déboulonner comme ça par le concile. Alors, vous avez eu donc une situation vraiment très scabreuse, qui a fait beaucoup souffrir la papauté. Alors, la période qui a suivi a été la période de grand concile. On s'est dit, voilà, il faut réussir à réunir des délégués des églises de toutes les nations d'Europe, pas d'églises connues ailleurs, et d'Europe occidentale encore, puisque les orthodoxes orientaux étaient séparés depuis le XIe siècle, depuis 1053. Il faut réunir des délégués dans les synodes conciles généraux pour qu'ils remettent un peu d'ordre. Alors, ces conciles ont finalement réussi à le faire, mais non sans soulever la question de la suprématie. Appartenait-elle au pape ou au concile? Était-ce le concile qui pouvait dicter au pape, comme le concile de Constance, qui a réussi finalement à mettre en selle un pape unique, l'a prétendu, ou bien au pape, comme les papes eux-mêmes, même celui qui a été nommé par le concile, le voulait, au contraire. Alors vous avez eu donc de très, très grandes controverses à l'époque sur le lieu même précis de l'autorité, et alors avec tous les abus qui simultanément avaient lieu, on comprend que les gens se soient interrogés sur l'autorité, sur le rapport entre l'autorité de l'Église et de l'Écriture. C'était une situation qui était favorable à de nouvelles positions du problème. On ne faisait plus confiance globalement à l'Église comme interprète de l'Écriture, ainsi que l'avaient fait les pères et les gens de la première partie du Moyen-Âge. On se disait, mais voyons, qui alors certains disaient, c'est l'Écriture seule qui doit être la norme. Et après Wycliffe, il y a eu encore, par exemple, Jean Hus, un bohème, ce qui est actuellement en Tchécoslovaquie, qui a été malheureusement condamné, comme les vues de Wycliffe, par le concile de Constance, et Hus n'a pas seulement été condamné, mais exécuté. Il a été conduit au bûcher à cause de ses vues évangéliques sur bien des points. Mais il y a eu d'autres hommes qu'on appelle couramment les pré-réformateurs, qui ont dit « c'est l'Écriture qui doit primer », comme le disaient aussi dans leur montagne, où ils s'étaient retranchés pour fuir de persécution, les Vaudois, les disciples de Pierre Valdo, qui à l'époque représente un mouvement authentiquement évangélique. Et puis alors il y avait ceux qui réagissaient et qui défendaient les droits du pape et qui, comme les Prierias que j'ai cités, allaient jusqu'à des extrêmes assez incroyables. Alors c'est après ce temps de remous, de grandes secousses, pourrait-on dire, qu'a éclaté ce que les catholiques, comme on appellerait la crise de la réforme, que s'est passé ce que nous appellerions nous la restauration de la souveraineté scripturaire grâce à la réforme ou réformation qui a rendu juste forme, et pas au sens le plus fort, pas seulement superficiel, à la foi chrétienne. Vous savez qu'on a résumé les grands principes de la réforme en en énonçant deux, qui sont intimement liés entre eux. En latin, c'est très commun d'utiliser le latin pour les dire, sola fide, est-ce que j'aurais dû la créer dans mon sac, c'est impossible. Sola fide, c'est-à-dire par la foi seule. Il y a un tableau, je vais en profiter, mais apparemment, ce n'est pas possible. Non, je n'ai pas de craie, alors tant pis. Sola fide et sola scriptura. Ce qui veut dire par la foi seule, par selon l'Écriture seule. Le principe par la foi seule est appelé le principe matériel de la réforme, parce qu'il s'agit du contenu de la révélation par laquelle nous avons la vie. La grande redécouverte de la réforme, vous le savez, a été que c'est par pur cadeau de Dieu que nous recevons sans avoir rien à faire sinon nous ouvrir à ce cadeau et nous engager ainsi dans la voie qui nous est ouverte. C'est cette grande redécouverte par la foi seule. Nous sommes déclarés justes, acquittés au tribunal de Dieu, nous qui pourtant sommes des criminels aux yeux de sa sainteté. Et puis le principe sola scriptura, par l'écriture seule, selon l'écriture seule, a été appelé le principe formel, car il indique comment nous allons procéder pour savoir ce qui est vrai, ce qu'il convient de croire. Luther, dans un moment dramatique de sa vie, Luther qui a été l'instrument du déclenchement de la Réformation, Luther, vous le savez, a affirmé devant la Diète, c'est-à-dire le Parlement de Worms en Allemagne, en avril 1521, de quelle façon sa conscience était liée par la parole de Dieu et ne pouvait faire autrement. Il comparaissait, après avoir déjà eu divers face-à-face avec des représentants du catholicisme et des autorités, il comparaissait devant l'empereur et un représentant de l'accusation de l'autorité catholique, Jean von der Ecken, Jean Eck, dit-on plus souvent, lui ayant demandé de rétracter solennellement ses écrits, Luther a répondu, d'après le procès-verbal officiel de la séance, « Parce qu'on me demande une réponse simple, j'en donnerai une qui n'aura ni corne ni d'or. » C'est sa manière de parler, ni corne ni d'or. Vous voyez, une réponse, ça va compliquer, alambiquer, équivoque, etc. « Si l'on ne me convainc pas par le témoignage de l'Écriture ou par des raisons décisives, et tous ceux qui commentent cela disent il s'agit de raisons tirées de l'Écriture même, bien sûr, il faut lire l'Écriture intelligemment. Si l'on ne me convainc pas par le témoignage de l'Écriture ou par des raisons décisives, je ne puis me rétracter. Car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape ni à celle des conciles, parce qu'il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et contredits. J'ai été vaincu par les arguments bibliques que j'ai cités et ma conscience est liée à la parole de Dieu. Je ne puis et je ne veux rien révoquer. Car il est dangereux et il n'est pas droit d'agir contre sa propre conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen. Voilà l'affirmation classique, ça fait presque image d'Épinal, de la naissance de la réforme avec le principe de la souveraineté de l'Écriture supérieure à tout pape et tout concile en 1521. Alors, il me semble intéressant, pour notre réflexion, d'abord, d'évoquer les facteurs qui ont préparé et permis le grand bouleversement rénovateur de la Réforme. Et qui, entre autres, ont permis qu'il ne s'agisse pas du témoignage isolé d'un homme qui avait vu la vérité, mais qui a été censuré par l'autorité en place, dont la voix a été étouffée, comme celle de nombreux pré-réformateurs venus avant lui. Il y a des gens qui ont vu presque aussi clair que Luther, dont on retrouve maintenant la trace, mais qui n'ont laissé aucune grande marque dans l'histoire. Alors, quels sont les facteurs qui ont fait que dans le cas de Luther, ça a pris et que c'est devenu un incendie qui a embrasé presque l'Europe entière? Alors, parmi les facteurs qui ont préparé les choses, il y a eu, me semble-t-il, quatre facteurs principaux. Il y a eu le sens du scandale de la défiguration du christianisme au sein de l'Église du temps, du besoin de réforme. Les disputes entre pape et antipape, les péripéties des conciles dont je vous ai parlé, avaient quand même suscité un sentiment très très largement répandu que vraiment non, ça ne peut pas durer, qu'il fallait réformer l'Église. La pensée de la plupart des gens qui appelaient une réformation de leur vœu, c'était surtout que les mœurs du clergé, simoniaque, adultère, enfin adultère, fornicateur, disons, etc. Ce meurtre du clergé était absolument intolérable. Enfin, il y avait une collusion à l'époque incroyable avec les pouvoirs d'argent, les postes ecclésiastiques ou monastiques étaient liés à des bénéfices. C'était pire que dans les milieux affairistes les plus corrompus de notre temps. Voyez. Alors, il y a des gens qui disaient, quand même. Il y avait un sentiment qu'il fallait réformer. Et pendant la dernière partie du XVe siècle, la papauté elle-même a atteint un tel cynisme dans la manifestation de ses vices, qu'il y a quand même beaucoup de catholiques à cette époque, pour dire, ça ne peut plus durer. Les historiens catholiques aujourd'hui en sont bien d'accord, c'est le temps des Borgia, des papes qui entretenaient ouvertement des maîtresses, qui assassinaient, qui... Bon, absolument incroyable. Alors, il y avait ce premier facteur. Tout le monde disait, il faudrait réformer. Les conciles disaient, nous allons essayer de réformer, puis n'arrivaient à rien, etc. Deuxième grand facteur, c'est nettement plus subtil, c'est une certaine intériorisation de la piété des grands thèmes de l'enseignement chrétien qu'on observe dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Intériorisation individuelle. Au XIVe siècle avait été fondée une confrérie, les Frères de la Vie Commune. C'est en Hollande que ce groupe avait été formé, et ce n'est pas sans signification que la Hollande ait été le lieu de la fondation de ce groupe. Les membres, les Frères de la Vie Commune, ne cessaient pas d'occuper un emploi dans la société civile. Ils ne faisaient pas retraite dans les bois, ils ne se retranchaient pas dans des cloîtres. Ils continuaient d'être actifs dans la vie civile, et ce qui était l'accent majeur, c'était une sorte de piété personnelle intériorisée. Et la chose était relativement nouvelle au Moyen-Âge. Jusqu'alors, ceux qui avaient vocation de piété plus accentuée s'adonnaient à la contemplation dans les monastères, ce qui était un exercice très communautaire. Le moine, bien que le mot signifie l'homme qui choisit la solitude, le moine n'était qu'un membre d'une communauté monastique. Et dans son effort de contemplation, ce n'était pas tant l'intériorisation que l'extase qu'il cherchait. C'est-à-dire quelque chose d'autre avec des hommes qui continuent d'avoir une vie extérieure comme les autres, ont une piété, donc qui tend à s'intérioriser. Alors, la chose semble liée à la naissance d'un nouvel individualisme lié lui-même à l'ascension de la classe bourgeoise. Une interprétation qui a peut-être des relents un peu marxistes, mais je ne pense pas que nous ayons à écarter toute interprétation qui, à titre partiel, peut mettre l'accent sur les facteurs socio-économiques. La fin du Moyen-Âge est marquée par l'ascension de ce qu'on appelait aussi en France le tiers-État, mais avec tout spécialement les bourgeois, les habitants des villes, marchands, négociants, artisans qualifiés. C'était des gens qui devaient réfléchir, qui devaient organiser leur vie. Ces gens-là cultivaient une vie intérieure et à titre individuel que ne connaissaient pas ni les aristocrates, ni la chevalerie, le plus souvent, je schématise bien sûr, ni les grandes masses paysannes, les paysans harassés de travail, soumis au grand rythme des saisons, avec guère de temps pour penser, et leur vie culturelle était régie par la tradition, le folklore, les fêtes, etc. Les nobles avaient leur destin tout fixé du fait de leur naissance. C'était surtout par leur attache familiale qu'ils se définissaient. Et leur rôle prescrit dans la cérémonie. Au départ, ça avait été surtout des guerriers, souvent quasiment des gangsters. Hein. Mais, disons, après quelques siècles d'affinement, avec l'exercice de certaines responsabilités. Il y avait des nobles qui étaient authentiquement nobles moralement, mais ils ne cultivaient pas une vie d'intériorité. celle-ci correspond bien mieux à la situation du marchand qui doit calculer, qui est ce qu'il est dans sa ville en fonction de son habileté personnelle, en fonction de son individualité, oui, dans la cité. Et non pas simplement parce qu'il s'appelle monsieur de je ne sais pas quoi. Alors, il semble qu'on puisse rattacher à cet essor de la classe bourgeoise, en partie, un accent nouveau sur l'intériorité qui prépare la réforme. Il y a, alors, événement de nouveau très très marquant, très évident donc, par son importance, le mouvement de l'humanisme qui a commencé en Italie au début du XIVe siècle, en gros, après les siècles où la scolastique dominait, on s'est impatienté de son joug, et le mot d'ordre du retour aux sources, avec un éveil de l'intelligence critique. Voyons, est-ce que ce texte est bien le texte original, ou est-ce qu'il y a eu des additions, etc. L'éveil de l'intelligence critique, lié au mouvement de l'humanisme, ça a été un phénomène extrêmement important. Et il s'est appliqué aussi assez vite au texte biblique. Il y a eu un grand humaniste, déjà dans la première moitié du XVe siècle, donc un peu moins d'un siècle avant Luther, appelé Laurent Valla, qui d'ailleurs a été favorisé par un pape, mais qui a considéré le texte du Nouveau Testament, qui a fait des annotations au Nouveau Testament, qui a montré que bien des choses qui s'étaient ajoutées dans la compréhension courante n'étaient pas sérieusement fondées. Vous savez, ce thème du retour aux sources, retour à l'Antiquité, dans sa vérité, qui a été un thème pour très nombreux intellectuels à ce moment-là. Ce Laurent Valla, d'ailleurs, avait démontré, bien qu'ami d'un pape, que les donations de Constantin ont un faux par lequel prétendument l'empereur Constantin aurait donné des territoires, des privilèges au pape, un faux dont la papauté s'est desservie pour accroître son pouvoir politique. Et Laurent Valla avait démontré que c'était un faux dès le milieu du XVe siècle. Il y a eu aussi les fausses décrétales, un autre document, mais les donations de Constantin, c'est un document un peu du même type.
Il y a des lucides de faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à venir là-dedans.
Et c'est un mouvement vraiment intéressant que ce mouvement de l'humanisme, et puis alors ça a été renforcé 50 ans, un peu plus de 50 ans avant la réforme, par la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, la ruine de l'Empire byzantin, dont la religion donc était l'orthodoxie orientale byzantine. Lorsque les Turcs ont pris Constantinople, ça a été un sac horrible de la ville. Les intellectuels de l'Empire byzantin qui s'écroulait ont essayé de fuir vers l'Italie, de passer la mer vers l'Italie, avec des manuscrits, avec le contenu le plus précieux des bibliothèques, etc. Et du coup, en Italie, c'est arrivé des tas de documents fort intéressants sur l'Antiquité, des gens aussi qui savaient très bien le grec, et qui pouvait l'enseigner, ça a contribué, ça a été une sorte de relance de la Renaissance et de l'humanisme en Italie, et non sans conséquence pour la réforme. Et autant, au début du XVIe siècle, alors, il faut mentionner au moins deux noms de grands humanistes qui ont traité du Nouveau Testament, Érasme de Rotterdam, le prince des humanistes, qui a fait une édition du Nouveau Testament grec avec traduction. On ne se contentait plus de se référer à la traduction de Saint Jérôme aux alentours de 400 après Jésus-Christ. On revenait au grec. Et Lefèvre d'Étaples, autour duquel s'est créé en France, bien avant ce qu'on appelle la Réformation, un groupe d'évangéliques. Oh, il n'était pas au clair sur tous les points, il ne faut quand même pas se faire d'illusions, mais quand même nettement d'évangéliques qui, étudiant la Bible avec ferveur, voulaient réformer l'Église en fonction des enseignements bibliques, retrouver plus de simplicité, retrouver plus de rectitude morale, mettre en cause les pouvoirs exorbitants de la hiérarchie, etc. On peut ajouter à ce que je viens de dire sur l'humanisme que Gutenberg, à la même époque, a inventé l'imprimerie et que ça a été un instrument de diffusion de ces textes anciens de la Bible qui a préparé la réforme et qui, une fois la réforme éclatée, a permis sa propagation. S'il n'y avait pas eu la réforme pour diffuser la Bible et aussi les écrits de Luther au début, qui se sont arrachés comme des petits pains, les imprimeurs ont travaillé, on peut se demander si la réforme aurait réellement secoué l'Europe. Ça a été un instrument dont Dieu s'est servi à coup sûr, que l'imprimerie inventée par Gutenberg en 1450. Enfin, dernier facteur que je mentionne, les circonstances politiques, avec un éveil des nationalités. Là encore, Dieu s'est servi des choses. S'il n'y avait pas eu des princes allemands puissants, capables de résister à l'empereur, qui se sont intéressés à la réforme, et tout d'abord l'électeur de Saxe, qui a protégé Luther. Humainement parlant, en tout cas, Luther aurait subi dans ses premières années le sort de Jean Hus, et il n'aurait pas eu grand-chose qui en aurait résulté. Alors il y aurait encore d'autres choses qu'on pourrait évoquer au plan de l'histoire des idées, mais ce serait plus délicat à évaluer de toute façon. Alors chez Luther, il me semble qu'on peut distinguer schématiquement dans son expérience personnelle, qui est le début de la réforme, on peut distinguer les stades suivants. Il ne me semble pas qu'il ait commencé par l'affirmation du sola scriptura. Et c'est plutôt une expérience personnelle de la puissance de la parole de Dieu dans l'Écriture qui est venue en premier lieu. Et Luther était un homme extrêmement sensible. C'est un musicien, un affectif, un intuitif, avec une puissance de travail extraordinaire, avec une richesse de pensée qui le met au rang des principaux génies de l'histoire de l'humanité, même si on n'est pas d'accord avec lui, même pour ceux qui ne partagent pas sa foi du tout. C'était d'abord un homme très très sensible qui a vécu jusqu'au tourment le drame de la conscience accusée, qu'il cherche et qui cherche par ses œuvres à obtenir la paix devant Dieu. Il y avait aussi une tendance à la dépression qui a joué, qui l'a rendu plus sensible. Dieu s'est servi pour lui faire prendre conscience de la vérité du jugement du pécheur devant Dieu. Et il a vécu alors avec une intensité extraordinaire la libération de certaines paroles de l'Écriture qui se sont fichées dans son cœur, lui ont accordé. Parce qu'il a compris que la justice de Dieu qui se révèle dans l'Évangile, ce n'est pas la justice du juge qui condamne, mais la justice cadeau qui revêt le pécheur pour qu'il soit à l'abri de tout jugement. Et alors s'il a compris ça, ça l'a vraiment révolutionné lui-même, un retentissement dans sa vie de message de l'Écriture, en particulier avec quelques passages particuliers qu'il saisit. Alors, à partir de là, il a discerné certains éléments du message courant de l'Église, dont il était déjà docteur en théologie, le professeur d'Écriture sainte. Avant sa réforme, il était déjà professeur de théologie et docteur. À partir de son expérience, il a discerné qu'il y avait des abus, qu'il y avait des erreurs, et il a commencé à prêcher contre. Il a affiché en 1517 ses thèses à propos du trafic des indulgences. C'était un abus particulièrement déplaisant. Alors il s'attendait a priori à ce qu'on le suive, parce qu'il est un soutien même de la part de certains des hommes en autorité. Il avait été aidé dans ses recherches spirituelles par le supérieur de son ordre en Allemagne. Il y avait des hommes dans la hiérarchie qui étaient des hommes de conscience. Et au lieu de se voir encouragé, il s'est montré très durement par les autorités. Et il a été obligé, pour que sur sa conscience que la parole de Dieu avait agrippé, harponné, il a été obligé de rompre, ça lui a pris au moins 3 ans, de rompre avec l'église de laquelle il était, l'église qui a pour chef le pape à Rome. Et c'est à partir de ce conflit qu'il est venu à une entière lucidité sur la supériorité de l'écriture par rapport à l'église et à toutes ses instances, sur le fait que l'écriture seule doit trancher. C'est en quelque sorte par le résultat de sa grande lutte qu'il a reconnu la faillibilité du pape et des conciles. Alors, du côté suisse, un chemin relativement semblable a été fait par Zwingli, Zwingli, à Zurich. Moins dramatiquement, il faut bien le dire. Zwingli, lui, était bien davantage un humaniste qui, à partir de cette discipline du retour aux sources, s'est rendu compte que l'Église s'était grandement éloignée du message de l'Écriture, mais aussi a été saisie par le message de justification par le Christ seul, par sa grâce seule. Il a été beaucoup plus sensible d'une autre façon, disons, aussi sensible que Luther, au thème de la souveraineté de la grâce de Dieu. En un sens, il aurait été plus près d'Erasme, beaucoup plus près. Mais si chez lui, alors que ça n'a pas été le cas chez Erasme, le retour aux sources a conduit à la réformation, c'est sans doute parce que Zwingli était un homme beaucoup plus courageux, tranchant, c'était un montagnard suisse, qui est habitué à la lutte contre les éléments, une certaine rudesse. D'ailleurs, il a péri plus tard sur le champ de bataille même. Zwingli était un homme donc qui ne pouvait pas se contenter de compromis diplomatiques comme Erasme. Erasme avait vu bien des choses, il a dit des choses très intéressantes. Son manuel du soldat chrétien, Erasme contient des tas de remarques très, très fines et bibliques en critique de l'Église. Seulement et puis l'éloge de la folie, qui est un son livre, mais il est très critique aussi, et oui. Seulement, Erasme tenait à sa peau, et quand il voyait que ça risquait de tourner un peu trop mal, il mettait dans son bain. Alors que Zwingli, lui, a été jusqu'au bout. Mais Zwingli, s'il a commencé, non pas par mettre en avant l'autorité de l'écriture, mais le message de l'écriture, qu'on avait oublié, et il a revenu aussi à Saint-Augustin en même temps qu'à l'écriture, face à l'opposition qu'il a rencontrée, lui aussi en est venu à dire sola scriptura, rejoignant Luther, alors qu'il en était à peu près indépendant, 2-3 ans plus tard, à peine. Vous avez un double commencement pour la réformation. Le commencement allemand, avec Luther, à Wittenberg, et puis le commencement suisse, à Zurich, avec Zwingli. Une question qui s'est posée très vite, il faut en parler, c'est celle du canon. Parce que si on dit autorité de l'écriture, qu'appelle-t-on écriture exactement? Où embrasse-t-on tout à fait les limites? Question du canon. Elle n'avait pas été formellement réglée dans la tradition chrétienne jusqu'à ce moment-là. Je vous ai dit, je pense que je l'ai dit, que pratiquement à la fin de l'Antiquité, vers 400, tout le monde s'était mis d'accord pour les livres du Nouveau Testament, mais il n'y avait pas eu de décision formelle, en tout cas pas, de façon pas très évidente. Oui, dans certains conciles, il y a des références en annexe qui semblent indiquer un accord sur le canon. La Réformation remettant tout en cause, la question du canon se posait. Karlstadt, c'était le nom de la ville d'origine, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, qui était un professeur, un collègue de Luther, qui l'a suivi dans sa réforme, a été le premier sans doute à poser la question du canon. dès 1520 avec un petit livre sur le sujet. Et je crois que sa position sur le sujet était très saine. Il exclut les apocryphes pour l'Ancien Testament, comme la Réforme après ça l'a fait. Et en ce qui concerne la liste des livres du Nouveau Testament, il s'appuie tout spécialement sur l'Église ancienne, en disant que l'Église ancienne a bien discerné ce qu'il en était. Mais Luther, qui a eu ensuite des difficultés avec Hallstatt et qui a rompu finalement avec lui, Luther lui a été beaucoup moins prudent. Luther s'est laissé emporter par sa subjectivité, comme tout était parti de son expérience, saisi par la parole de Dieu dans l'Écriture. Il tendait à se fier un peu trop à son expérience et une sorte d'instinct spirituel qu'il pouvait avoir. Alors ça marchait bien souvent, mais parfois il ne marchait pas aussi bien. Et c'est ce qui l'a conduit à dire des choses assez raides et assez tristes sur certains écrits du Nouveau Testament, en particulier l'épître de Jacques. Il l'a appelé épître de paille, comme je le rappelle. Ce n'est pas aussi méchant peut-être que ça n'aurait l'air, parce que c'est un terme de comparaison. Mais quand même. Et il a été jusqu'à mettre en marge d'un texte de l'épître de Jacques, ça il ne l'a pas publié si vous voulez, mais quand même c'est significatif, en marge de l'épître de Jacques, à l'endroit où Jacques dit qu'il ne va pas y avoir un grand nombre d'enseignants, que n'as-tu suivi toi-même ce conseil? Non, à coup sûr, pour lui, parce qu'il ne trouvait pas le message de la justification par la foi, qu'il semblait à première vue que Jacques dise le contraire, justification par les œuvres, ça ne pouvait pas être dans le canon, ça ne pouvait pas être la parole de Dieu. Et sur deux ou trois autres textes du Nouveau Testament, il a eu des hésitations aussi. Alors, ce n'est pas la question de l'inspiration biblique elle-même, la notion de l'inspiration. C'est la question des limites du canon. Il ne faut pas confondre les deux. Vous avez beaucoup de gens qui prétendent que Luther, tout en prêchant la parole de Dieu et la trouvant dans la Bible, ne croyait pas que la Bible ait été infaillible, que la Bible n'ait comporté aucune erreur ni contradiction. Il y avait des tas de gens qui disent ça. Et pendant un temps, j'ai même été, même assez longtemps, j'étais assez impressionné par leurs arguments. J'avais lu en particulier un livre consacré entièrement à ce sujet, qui paraissait assez sérieux, avec des tas de citations. Et si vous lisez mon cours sur les prolégomènes, qui a été publié il y a 10 ans, vous voyez que je suis assez prudent à propos de Luther. Que je ne prends pas position de manière tout à fait formelle la rigueur de sa doctrine de l'Écriture. Je n'ose pas affirmer qu'il ait eu la doctrine de l'Écriture que nous pensons indispensable, même indépendamment de la question du canon. Alors depuis, j'ai eu l'occasion, pour le cinquième centenaire de sa naissance, de travailler la question à nouveau, de faire des études de prier, de lire d'autres livres qui sont difficilement accessibles, mais que j'ai pu obtenir sur le sujet. Et ma conclusion, alors là, est tout à fait formelle maintenant. Je crois vraiment que j'ai pu voir tous les textes qu'on peut citer dans le débat, qui n'ont jamais été cités dans le débat. Non, Luther a, de notre point de vue, erré sur la question du canon. Là, malheureusement, il a exclu certains livres qui doivent être inclus. Mais quant à sa doctrine de l'inspiration, il n'a pas faibli. Sa doctrine de l'inspiration est bien la doctrine orthodoxe. Si on voit tous les exemples, si on les étudie dans leur vrai sens, on se rend compte que Luther n'a pas fait d'entorse à ce propos. Contrairement à ce que vraiment beaucoup de gens disent. Alors vous savez que j'ai publié donc mon étude sur cette question. Ça a été à la fois présenté comme un article dans la revue réformée et comme un petit fascicule fac réflexion de la faculté de Rousseau-Seine. Vous pouvez obtenir ce texte, un texte relativement technique, sur Luther et l'écriture. Mais je vous dis donc quelle est ma conclusion aujourd'hui, elle est nettement plus ferme en faveur de Luther que ce que j'osais dire en deux phrases dans le fascicule sur les prolégomènes. Mais enfin, sur le canon, Luther, malheureusement, a eu des positions imprudentes. Heureusement qu'il s'est associé Melanchthon, un homme beaucoup plus doux, méthodique que lui, beaucoup plus prudent aussi, lui qu'on a appelé le précepteur de la Germanie, de l'Allemagne, qui lui alors s'est bien rendu compte que Luther allait trop loin sur les questions du canon, et qui a maintenu le canon authentique. Melanchthon, qui pourtant a été considéré par Luther comme vraiment son double, celui auquel on pouvait faire entièrement confiance. Quelle leur différence, parce que les mouvements, ils ont formé un tandem très équilibré, tous les deux. Melanchthon, donc, sur la question du canon, la position sage, qui a été aussi celle de Zwingli et de Calvin à la génération suivante. Rejetant les apocryphes, que jamais les juifs n'avaient reçus comme livre de l'Ancien Testament, en disant que c'était à la synagogue aux juifs, aux autorités juives, de dire quelle était la liste des livres de l'Ancienne Alliance, et admettant la liste qui était, à la fin de l'Antiquité, devenue la liste de pratiquement tous les chrétiens, de noms ou véritables, pour le Nouveau Testament.
C'est notre canon.
C'est ça. Et avec tout cela, Jules de Pierre, aussi bien que Jacques et les Hébreux, et l'Apocalypse. Et, par exemple, pour l'Apocalypse, il est tout à fait trompeur, mensonger, de suggérer que Calvin n'aurait pas inclus l'Apocalypse dans son canon. Certains ont aussi prétendu ça, parce qu'il n'a pas écrit de commentaire sur l'Apocalypse, alors qu'il a écrit un commentaire sur tous les autres livres du Nouveau Testament. Mais, en fait, il ne s'agit pas du tout de l'exclure du canon, mais Calvin estimait que le livre si difficile à commenter, il était plus sage pour lui de s'en abstenir. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est Ecolampa, d'un autre réformateur, qui, apprenant que Calvin n'allait pas écrire de commentaire sur l'Apocalypse, a dit « Quel sage, Calvin !» Ça a été sa réaction. « Combien sage !» Il savait qu'avec ses responsabilités, il aurait fatalement suscité des réactions, des gens n'ont pas été d'accord. Alors, il a préféré s'abstenir de ce traitement. Il y a aussi la question de l'interprétation qui se pose. Je vous l'ai expliqué, je crois, la dernière fois. L'usage de l'interprétation allégorique, la multiplication des sens de l'écriture, avait rendu le contrôle scripturaire pratiquement inopérant pendant pratiquement l'Antiquité patristique et le Moyen-Âge. À partir du moment où on peut faire dire au texte quatre sens différents, sur différents plans, qu'on peut donc à tant d'ingéniosité trouver des significations comme on veut, effectivement, l'écriture ne peut plus exercer un véritable contrôle sur les doctrines. Et il faut notre autorité, l'autorité hors de l'Église. La réforme est revenue avec beaucoup de force à l'idée qu'il y a un seul sens. Luther a vigoureusement attaqué l'idée qu'il y ait plusieurs sens. À ce moment-là, l'écriture devient comme un roseau agité par le vent, que l'on ploie dans tous les sens, dit-il dans son grand livre contre Erasme, le traité du cerf arbitre. Au début, il avait utilisé encore l'allégorie lui-même, mais il s'en est purifié dans le cours de sa carrière, Luther. Et puis, chez Calvin, c'est aussi très très ferme. Son commentaire sur Galates 4, 22, par exemple, il exclut très nettement les questions allégoriques, la pluralité des sens, il met l'accent sur le sens. Alors, ce sens, il faut le découvrir en suivant des règles que l'écriture elle-même nous apprend, parce qu'autrement on retomberait sous une autre autorité. D'où le slogan « L'écriture interprète d'elle-même » et les réformateurs ont spécialement évoqué à ce propos l'analogie de la foi. Dans Romains 12, verset 6, Paul dit que celui qui prophétise, qui parle au nom de Dieu, le fasse selon l'analogie de la foi. Et les réformateurs ont compris cela de façon assez complexe, que je vais expliquer brièvement. Je viens de travailler à cette question tous ces derniers jours. Je viens de terminer, j'ai terminé de dactylographier vendredi soir un long article sur le sujet pour le Scottish Bulletin of Evangelical Theology. C'est en anglais, alors ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai souffert. Et alors, c'est sur cette question de l'analogie de la foi que j'ai fait le travail. Alors, je suis en plein dedans. Alors, je résume. Mais ils ont compris, selon l'analogie de la foi, d'une façon triple. Pour Luther, d'abord il y avait ce rôle des passages qu'il avait saisis, qu'il appelait les paroles claires et lumineuses de l'Écriture. Il lui semblait qu'il n'avait pas besoin d'interprétation. C'est tellement clair qu'on pouvait partir de là comme clé pour tout le reste. Les autres étaient moins subjectifs que Luther, mais quand même l'idée est restée que c'est des passages les plus clairs qu'il faut partir, ce sont les passages les plus clairs qui étaient utilisés pour interpréter le reste. Ça, c'est la première idée. La deuxième grande idée correspond aussi à l'expérience de Luther, mais il s'agit plus tant des passages que des vérités. Selon l'analogie de la foi, ça veut dire selon la vérité centrale, la justification par la foi, la christologie. Luther a, sur ce point par exemple, accusé Zwingli sur la Sainte-Seine de ne pas interpréter selon l'analogie de la foi. Parce que pour lui, interpréter selon l'analogie de la foi, ça voulait dire marcher par la foi et non par la vue. Alors, pour la vue, ce n'est que du pain. Marcher par la foi, c'est comprendre que la substance du corps de Jésus-Christ est là avec le pain. On ne le voit pas, on le croit. Alors ça, c'est l'interprétation selon l'analogie de la foi. C'est sa manière de comprendre, mais on trouve une autre façon, plus sobre, de concevoir cette même deuxième idée de l'analogie de la foi chez Calvin. Calvin, évidemment, c'est au moment où il se défend. Alors, c'est peut-être un peu conditionné par ses intentions. Mais lorsqu'il dédie son grand livre de l'institution chrétienne au roi de France, à François Ier, une épître dédicace, dit Paul, dit qu'il faut prophétiser selon l'analogie de la foi. Voilà le test de la véracité d'une interprétation. Eh bien, si on choisit ce critère, alors notre doctrine, nous, de la réforme, l'emporte évidemment la victoire. Et dans nos mains, il l'emporte sur la doctrine catholique. Car qu'est-ce qui convient mieux à la foi que de nous reconnaître nus de toute vertu pour être de Dieu vêtus, vides de tout bien pour être de lui emplis, boiteux pour être de lui redressés, aveugles pour être de lui illuminés, de nous ôter toute matière de gloire pour que lui seul soit glorifié et nous en lui. C'est un magnifique passage. Mais on voit bien que ça correspond à un thème théologique. Ce qui attribue à Dieu toute la gloire, c'est cela qui est conforme à la foi. Et interpréter son analogie de la foi, c'est pour Calvin dans ce passage, interpréter donc d'une manière qui rende à Dieu toute la gloire. Et puis alors l'autre idée, c'est l'idée sur laquelle l'analogie de la foi, c'est le réseau harmonieux de toutes les paroles bibliques. Interpréter selon l'analogie de la foi, c'est interpréter selon la cohérence de l'Écriture, en consultant tous les autres passages. Alors, cette idée-là est aussi restée, je pense qu'elle a été majoritaire ensuite dans le protestantisme. Je dirais que ça me paraît l'interprétation fondamentale à garder. Parce que les deux autres idées sont très attrayantes. Et je crois qu'on peut les garder si on adopte en priorité la troisième. Mais autrement, si on se contente de la première ou de la deuxième, on court de très grands risques d'arbitraire. Comme on a justement vu avec Luther. Luther dit, la parole, ceci est mon corps, c'est clair, pas besoin d'interprétation. Donc, il anathémise, ou il dit, ce qui est conforme à la foi, c'est ce qui est contraire à la vue, donc. Mais, là encore, ça peut être très arbitraire, pas de contrôle. Et même quand on dit la gloire de Dieu, mais qui dira ce qui fait la gloire de Dieu? Ce qui est le plus à la gloire de Dieu. Moi, je suis d'accord avec Calvin sur le sujet en cause, mais il faut quand même le prouver un peu mieux. Ça ne peut pas être notre sentiment seulement que c'est plus à la gloire de Dieu. Puis dans la discussion sur les sacrements, hein, même ce principe, je crois que Calvin dirait, refuser le baptême des enfants, c'est vouloir donner quelque chose à l'homme. Le baptême des enfants est beaucoup plus à la gloire de Dieu, puisque l'homme n'a rien à faire, lui, c'est un petit enfant. Vous voyez le piège qu'il peut y avoir quand on choisit un principe. Donc, il y a une seule sécurité véritable pour l'interprétation, c'est que vraiment tous les passages bibliques soient pris en compte, avec leur rapport mutuel. Mais une fois qu'on a fait ça, alors on peut s'intéresser bien sûr au passage des plus clairs, en priorité, on peut essayer aussi de voir ce qui est la vérité centrale. Jésus, en Matthieu 23-23, nous montre bien que c'est une idée légitime. Et puis, finalement, je vais m'arrêter à ce point pour aujourd'hui, et on fera une suite pour la fois prochaine, qui nous conduira, je pense, à peu près jusqu'à notre temps. Pas trop prolonger. On ne peut pas se contenter en pratique de toute l'écriture dans la discipline de la vie de l'Église, parce que l'écriture c'est trop long, l'écriture c'est trop varié, disons. Alors vous avez toujours quelqu'un qui dira oui, mais ce verset, avant de lui montrer, dans la vie en commun d'une Église, il faut un instrument pour exercer la discipline, pour dire donc ça c'est une fausse doctrine qu'on ne peut pas admettre. Alors la réforme a été caractérisée par la rédaction de confessions de foi. Plus développé que le symbole des apôtres. Ces confessions de foi couvrent les points fondamentaux sur lesquels il faut être d'accord dans la vie de l'Église et que les prédicateurs devront respecter. Et ça a été une production tout à fait caractéristique de l'âge de la réforme.
Ça n'existait pas forcément.
Donc, vous aviez les décisions des conciles sur certains points déterminés.
Le symbole des apôtres, c'est
pas le eh bien, il y a justement une grande différence entre le symbole des apôtres, qui n'est que de 8-9 lignes, qui est un résumé minimal, et puis ces confessions de foi de la réforme, qui sont des résumés dogmatiques, pourrait-on dire, qui tiennent 30-40 pages, la confession helvétique postérieure, qui est la plus longue, je pense, c'est un véritable livre, de centaines de pages. Donc, vous avez là un genre littéraire différent. Et les confessions ont joué le rôle de constitution dogmatique pour la vie des églises. Avec un statut qui a été très lucidement défini, mais peut-être plus difficilement appliqué, celui des normes normées. Les confessions de foi sont des normes, mais pas des normes suprêmes. Si on disait ça, on reviendrait à une autorité de l'Église égale à celle de l'écriture au moins, et peut-être en pratique supérieure. Alors on a bien dit, ce sont des normes, mais qui sont sous l'écriture, et qui peuvent toujours être réformées par l'écriture. Des normes normées, pas normantes, mais normées. Ça c'était l'expression classique. Seulement, je dis que ça n'a pas été si facile à appliquer. Parce qu'une fois qu'il y a une confession de foi, comment la réformer? Si quelqu'un vraiment pense qu'elle n'est pas tout à fait exacte sur un point donné, en général, celui qui commence à voir mieux la vérité biblique que la confession de foi même, il est un peu seul quand il commence à parler. C'est une minorité. Et le temps qu'il convainque suffisamment d'autres, il essaie d'exclure. Donc, en pratique, dans une église donnée, il est difficile d'améliorer les confessions de foi selon l'écriture. C'est pas impossible quand même, mais disons c'est quand même un point pratique, sensible, dans le système concernant l'autorité dans les églises de la réforme. On pourrait aussi parler de l'office pastoral, qui touche aussi à la question de la manière dont l'autorité s'exerce, mais nous n'en avons plus le temps maintenant. De toute façon, dans notre dernière séance, revenir sur toutes les questions que vous aurez à l'esprit, vous pourrez poser celle-ci, par exemple. Je vous remercie d'avoir. C'était que je termine ce paragraphe.
Je voulais dire, monsieur, que vous
avez... Oui, monsieur Bonala.
Je ne sais pas ce que vous pensez des gens comme Branham qui, au nom de l'autorité humaine, la parole, insurge contre toute la dénomination du conflit.
Je pense que Branham était quand même assez typique d'une tentation contre laquelle les réformateurs ont milité, et c'est dans mon paragraphe suivant, la tentation illuministe. Dans mon paragraphe suivant, je vais montrer comment ces positions de la réforme, que j'ai décrites aujourd'hui, se sont maintenues face à l'opposition catholique, face aux illuministes, et aussi face à certains courants humanistes, déjà à l'époque. Et puis, à partir de cela, alors, nous survolerons ce qui s'est passé depuis tout le XVIIIe au XXe siècle.